Bienheureux Père Céleste, il est vrai que la bonne nouvelle est répandue dans le monde entier. Le monde entier a été mis au courant, a été informé que Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il a marché, il a vécu comme nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et il est monté aux cieux. Il est assis à la droite, à ta droite, à la droite de ta majesté. Et les choses qu'il faisait hier, il les fait encore aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as appelés depuis les ténèbres où nous étions. Où nous ne voyons pas cela. Nous sommes désormais dans ton admirable lumière. Nous pouvons voir le Christ ressuscité, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est un privilège que tu nous fais et nous en sommes conscients. Nous n'avons aucun mérite, mais nous savons que seulement par ta bonté que nous pouvons ainsi t'admirer. Selon qu'il est dit, selon que ce Seigneur lui-même a dit aux disciples, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Or, pour ceux qui voient encore flou, ils puissent oindre encore leurs yeux, Seigneur, qu'ils voient clair, qu'ils voient ta présence, qu'ils voient tes œuvres, qu'ils voient ton action, ton soutien, ta protection. Ô Dieu, tout ce que tu fais pour nous en ce jour. Et nous te remercions de tous les dangers dont tu nous as sortis, ceux que nous connaissons et ceux que nous n'en connaissons pas. Mais comme les disciples autrefois, ils ne savaient pas combien Satan les réclamait, mais toi tu le savais. Tu sais combien il peut peut-être nous réclamer aujourd'hui, mais nous nous confions en la prière que tu as faite ce jour-là, cette prière étant toujours valable aujourd'hui en ce qui nous concerne. Pardonne-nous nos péchés, là où nous avons failli, que tu uses de miséricorde envers nous. Et puisse l'Esprit Saint descendre et nous conduire encore ce soir, pendant que nous écoutons, pendant que nous prêchons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Il vous bénisse richement. Nous allons lire dans... Aujourd'hui, on va lire de ça dans 1 Corinthiens. Vous pouvez relire Éphésiens 5. Mais on va lire de 1 Corinthiens. En Corinthiens, chapitre 1er. Verset 5. Ou même verset 4. Verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Cela était presque une obsession pour Paul, en tout cas un poids dans son cœur, que Dieu lui a mis dans le cœur, que pour le jour du Seigneur, nous soyons tous trouvés irréprochables. Et j'aime quand il dit au verset 4, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce au sujet des Corinthiens, parce que Dieu leur a fait une grâce excellente. » pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Si on continue à lire ce chapitre, ce livre de 1 Corinthiens, on comprend combien Dieu leur a fait grâce aux Corinthiens. Rien que toujours dans le chapitre 1er, déjà à partir du verset 10, nous voyons qu'il y avait des divisions parmi eux. Amen. Hein, où ils étaient là, verset 11, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Ce sont les gens de Chloé qui ont dit qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Et ces frères-là, ces Corinthiens, Dieu leur a fait cette grâce de manière à ce qu'il ne leur manque aucun don dans l'attente où ils étaient de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. S'il leur a fait cette grâce-là, nous demandons aussi qu'il nous la fasse. Amen. On n'a peut-être pas fait ce que les Corinthiens ont fait, mais la grâce de Dieu reste une grâce. Dieu leur a fait grâce. Il y avait des rivalités. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ, et ainsi de suite. Christ est-il divisé? Si nous allons au chapitre 5, il dit même que on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous aura la femme de son père. Ce sont les Corinthiens. Quelle grâce Dieu leur a faite. Mais nous ne sommes pas là, mais revenons à ce que nous avons lu au chapitre 1er, verset 8. Paul avait ce poids dans le cœur, avait ce désir, ce profond désir dans le cœur, que ceux qui ont reçu l'évangile qu'il a apporté par un appel de Jésus-Christ, il avait ce poids, il voulait absolument, c'était le sujet de ses prières et même de ses actions de grâce, que Dieu trouve ceux qui avaient reçu l'évangile, qu'il les trouve irréprochables. Et c'est aussi ce qu'il dit aux Éphésiens. Il dit, Christ s'est donné lui-même pour purifier son âme, la sanctifier et tout, afin que l'Église soit irréprochable, sainte, sans tache et ainsi de suite. Et nous avons vu, nous en avons parlé ces derniers jours, pendant la semaine, l'irréprochable qui leur est dit ici, il ne s'agit pas de reproche de débauche nécessairement. Quoique chez les Corinthiens, nous en trouvons. Pas nécessairement des reproches de rivalité ou de médisance ou de mensonge. Ce sont des reproches qui peuvent être faits à l'un d'entre nous ici ou à plusieurs. Ce sont des reproches qui peuvent nous être faits. Mais il n'y a pas que ces reproches-là. Il y a aussi les plus subtils, n'est-ce pas? Où vous trouvez des personnes qui vivent bien la parole de Dieu, qui font ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ils ont quasi un bon témoignage. Cependant, il y a des mais. Mais il n'a pas fait tout à fait ça. Son cœur était droit, oui, mais ou seulement, nous avons déjà lu ça, ou alors le cœur n'étant pas trouvé entier pour Dieu. Or, le premier commandement, c'est de tout ton cœur, n'est-ce pas? De toute ton âme, de tout ton esprit. Ça, ce sont les reproches qui peuvent nous être faits. Mais il y a aussi le fait que nous ayons des cœurs non affermis, ce dont nous avons parlé la fois passée, ballottant à gauche, à droite. Ils entendent une doctrine à gauche, ils y vont. Ils entendent une autre à droite, ils y vont. Ils sont flottants au gré du courant. Oui. Donc, le sujet ce soir, nous allons l'intituler « Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ ». Maintenant, un autre mot biblique pour dire irréprochable, selon la Bible, c'est être juste. Luc, chapitre 1er. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée. Comme on a dit une fois, hein, du temps de Macron, n'est-ce pas? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements. Amen. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Et pourtant, ils n'avaient point d'enfants. Ils avaient de sujets de murmure. Et nous avons vu mercredi que pas de murmure non plus. Il ne faut pas que Dieu vienne nous trouver murmurant et hésitant. Si le Seigneur vient et qu'il nous trouve hésitant, c'est que nous tâtonnons, ça ne va pas. Paul dit, je cours, je sais où je cours. Je sais où je vais. Je ne cours pas comme battant l'air. Mais je cours vers le but. Donc, d'une manière, ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Il ne s'est pas plaint, Zacharie. Il n'a pas murmuré. Il ne s'est pas donné comme raison d'aller en prendre une autre, puisqu'on ne nous dit pas qu'ils étaient tous les deux stériles, c'est Élisabeth qui l'était. Il était fidèle à son, comment dire, à son serment. Il n'avait pas dit comme ça en l'air que lorsqu'on lui a posé la question, promets-tu d'être fidèle? Oui, je promets. Oui, bien souvent, on oublie cela. Il n'avait pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc, comme les jeunes aiment dire aujourd'hui, c'est mort, c'est fini, donc ils n'en auront plus. Plus d'espoir. C'était fondamental pour Paul. C'est pour cela qu'il priait avec ferveur. Et c'était aussi un objectif pour lui-même d'être trouvé juste. Philippiens chapitre 3. C'est même Paul qui dit, il courait Il disait aux Corinthiens, je crois, de peur qu'après avoir prêché aux autres, qu'ils ne soient pas rejetés. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et nous savons que cette justice qui s'obtient par la foi, c'est une justice imputée. C'est-à-dire que Dieu nous compte comme étant juste. Ce n'est pas que nous soyons devenus justes de nous-mêmes, mais il est dit, n'est-ce pas, le juste vivra par la foi. Donc, c'est le fait d'avoir la foi, d'avoir cru, qui fait de vous un juste devant Dieu. Pas le fait d'avoir dit, à partir de maintenant, je ferai ceci, ou bien à partir de maintenant, je ne ferai plus cela. Non, ce n'est pas ça. Pas cette justice. Ça, c'est la justice qui vient par la loi. Qui vient de la loi. Mais la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La foi en Christ. Et vous obtenez ainsi, lorsque vous croyez qui est Christ, qui il est, eh bien, vous obtenez le statut de juste devant Dieu. Vous êtes juste. Et nous savons que quand Dieu vous justifie ainsi, il ne s'arrête pas là. Hein? L'œuvre qu'il a commencée en vous, n'est-ce pas? Paul dit, je suis persuadé qu'il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Là où il vous est demandé, pour ce jour-là, il vous est demandé d'être irréprochable. Dans Romains 8, déjà, le premier verset commence par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Qu'importe ce que les gens peuvent venir dire, que vous étiez menteur ou quoi, mais une fois en Christ, ça, Dieu ne voit plus ça. Vous n'êtes pas condamné. Dans une lettre circulaire, je ne sais plus laquelle, frère Franck dit ceci. Ouais. On va prendre frère Franckiste. Ouais. Il dit, la condamnation, là, qui n'est plus là, ce n'est pas le fait, ce n'est pas un acquittement. Ce n'est pas que, allez, il a manqué de preuves, on n'a pas pu établir votre culpabilité, alors on vous a acquitté. C'est pas ça. Ou bien un refus, comme ils disent, les gens de loi disent, Michel va nous apprendre ça un jour, hein, le non prononcé, n'est-ce pas, du verdict, on ne prononce pas. Mais en cas de faute grave, on verra bien par après. Finalement, on va finir par prononcer cela. Votre condamnation. Vous n'êtes pas condamné, donc c'est comme si, frère Abraham dit, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Votre casier judiciaire est absolument vierge devant Dieu. Alors maintenant qu'il vous a justifié, il dit aussi, verset 28, Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, les bonnes, les mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seulement si vous aimez Dieu. Il n'est pas dit pour ceux que Dieu aime. Il est dit ceux qui aiment Dieu. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimés et il nous aime. C'est ce que dit Jean. Car ceux, donc, pour savoir si Dieu vous aime, c'est voir quel amour vous avez pour lui. Si vous l'aimez de tout votre être, c'est que Dieu vous aime vraiment. Et vous êtes comme la prunelle de ses yeux, précieux devant lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui répondent à l'appel réel divin, qui n'ont pas suivi papa ou maman, ou un ami, ou l'époux ou l'épouse, mais qui ont suivi un appel divin, eh bien, ceux-là, c'est parce que Dieu les a prédestinés. Parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui refusera. Il lui donnera l'occasion de venir, mais il ne va pas l'appeler. Dieu ne se trompe pas. Même en envoyant Jésus-Christ, c'est pas, il savait qu'il y en a qui croiraient en lui. C'est comme cela que Christ est venu. Il n'est pas venu disant, comme dit le frère, disant, ben, on va me persécuter, on va me m'outrager, et ceux qui auront pitié de moi. Non, il n'est pas venu comme ça. Il savait très bien qu'il y aurait quelqu'un, au moins une personne, qui croirait en lui, qui le prendrait comme sauveur. Il ne l'a pas envoyé à vide comme ça. Il savait. Et il savait qui devait être sauvé. Vous soyez de bonne vie ou de mauvaise vie, il n'y a pas de problème. Vous savez, Matthieu, il était là à imposer les gens. Il était à son bureau. C'était un prédestiné. C'était quelqu'un qui aimait l'argent. Mais quand Christ l'a appelé, l'argent est devenu comme de la boue pour lui. Il s'est levé et il a suivi. Et tu laisses ton poste et ton préavis. Il dit, Christ payera mon préavis. Il l'a appelé. Oh, gloire à Dieu. Non, il ne s'est pas trompé. Il part à Jérusalem. Il arrive près de la Samarie. Les disciples connaissent bien le chemin vers Jérusalem. Ils prennent le chemin. Jésus leur dit, passons un peu par ici. Passons par la Samarie. Ah bon ? Jean chapitre 4. Seigneur, mais ce n'est pas le chemin. Faisons un petit détour par la Samarie. Il y a un verset qui nous dit ici dans Jean 4, verset 4. Il fallait qu'il passe par la Samarie. C'était une obligation qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, il avait rendez-vous avec une femme de mauvaise vie, mais qui était une prédestinée. Il fallait qu'il passe par là, rien que pour elle. Donc, toute la Samarie, là, c'était juste pour cette femme-là, pour la Samaritaine. Et quand il se retrouve là, il dit à ses disciples, au verset 8, donc il avait dit à ses disciples, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Il n'y avait rien à manger. Mais lui, il est passé par là, pas par la ville elle-même, par là. Pourquoi? Parce qu'il y avait le puits de Jacob qui était là, et une femme de Samarie devait venir puiser de l'eau. Et c'est pareil pour vous. Là où il vous a rencontré, il fallait qu'il passe par là. Sous la forme de quelqu'un d'autre, peut-être, mais il fallait qu'il passe par là. Si c'était un appel d'évangélisation, eh bien, il fallait que l'évangéliste passe par là. Ou que vous lisiez l'annonce qu'il y a évangélisation. Et quelque chose vous attire. D'habitude, vous ne faisiez pas attention à cela, mais ce jour-là, vous ne savez pas pourquoi. Tiens, j'irai un peu voir. Amen. Mais il y a une parole pour vous ce jour-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on revient dans Romains. Donc, et ceux qu'il a prédestinés, verset 30, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Je vous assure, Paul dit, si vous arrivez à ce stade-là, soyez sûr qu'il ne s'arrêtera pas là. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alors maintenant, une fois que vous croyez en lui, une fois que vous le suivez, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors maintenant, il dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Qui viendra noircir mon casier chez vous, si je suis un élu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas l'Assemblée qui justifie. Ce n'est pas un frère qui justifie. C'est Dieu lui-même. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh, gloire à Dieu. Donc, on obtient ce statut de juste par la foi en Christ. Ceux qui l'ont suivi, les Pierre et tout, ils lui ont dit, « Nous avons cru que tu es le Christ. » Ils avaient cette foi-là en lui. Alors, vous le suivez, qui que vous soyez, Dieu, par sa grâce ensuite, va vous sauver. Sa grâce concernant les reproches qu'il pouvait vous faire. Dieu vous manifeste sa grâce. Il vous sauve par le moyen de la foi. Comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, n'est-ce pas? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cette grâce, donc par le moyen de la foi, et cette foi, ne vous enorgueillez pas pour cela. Cela ne vient pas de vous. Dans Hébreux 12, il nous est dit, c'est Jésus qui suscite la foi. Et il en est le rémunérateur. Dans Éphésiens 2, il dit, mais nous étions morts par nos offenses et par nos péchés autrefois, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, ouais, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors nous, nous l'aimons. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Aucun mérite. Ah, j'ai cru. Eh bien, même ça, quoi ? C'est un don de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi en Christ, le fait d'avoir foi en lui, la foi comme disent les Écritures, comme dit l'Écriture, la foi en Christ nous enlève tout reproche que Dieu peut nous faire. Tout reproche qui peut nous être fait. Le fait de croire en lui, de croire en l'efficacité de son sang fait le reste. Il efface tout péché en nous. Et quand le sacrifice satisfait Dieu, quand le sang qui a coulé le satisfait, vous avez beau avoir été rebelle, vous avez beau avoir été, méchant ou quelque chose comme ça, vous avez beau avoir été menteur ou débauché ou dans Nombre 23, qui ça ? Balaam avait trouvé de quoi ? Avait trouvé comment faire flancher les enfants d'Israël. Mais d'abord, il voulait les accuser. Il savait qu'Israël avait commis des fautes là-bas, bien avant. Il savait, parce que Dieu lui parlait. Il savait qu'Israël, Dieu avait plein de choses à lui reprocher, à Israël. Mais dans Nombre 23, nous voyons Balaam, il essaie de maudire Israël, mais il n'y arrive pas. Sur la demande de Balak, roi de Moab, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. C'est exactement ce que Dieu demande. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Il a offert les sacrifices. Alors finalement, il va monter sur le mont Pisga. On va sauter. Il va commencer à prophétiser et il va dire ceci, verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute-moi. » Balak, c'est celui qui lui a demandé de maudire Israël. « Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, Balak, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Alors il dit ceci, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Jacob n'a commis aucune faute. C'est pas merveilleux ça. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Donc tu ne peux pas leur imputer les péchés des Égyptiens. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement, la sorcellerie, ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. savez que Balaam, il va dire, moi j'aime bien ça, au verset 10, il dit, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Il dit, que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Oui. Je pensais à ça, c'est juste un peu, c'est une parenthèse, je pensais à ça tout à l'heure. Nous savons que, comme avec ce que vous voyez, ce qui se passe au Mexique, là, où ces gens se révoltent parce que le chef de la drogue a été tué, vous savez, lui, il a eu une fin brutale. On lui a tiré une balle. Il est mort quasiment sans vraiment souffrir. Et pourtant, il a fait beaucoup de mal, vendre de la drogue et toutes ces choses. Il a peut-être même aussi fait tuer des gens. Mais il est mort d'une mort quasi douce, pas instantanée, d'un moment à l'autre, paf, il reçoit une balle et il tombe. Maintenant, celui qui a commandité ou qui a commandé sa mort peut mourir d'une manière en souffrant. Je connais un ancien chef du Congo là-bas, il a fait pendre des gens, il a fait des choses, et il est mort avec un cancer. Sincèrement, je préfère mourir avec une balle, n'est-ce pas, dans la tête, que mourir avec un cancer. Ça vous dégrade, ça vous souffrez, et toutes ces choses. Oui, donc, mais les enfants d'Israël, ils ont une fin, même si c'est une fin douloureuse, ils ont une fin particulière. Dieu est celui qui apaise leurs souffrances, Dieu est celui qui les encourage. Oh, ils pleurent, ils gémissent, mais ils ne perdent pas la foi. Paul est passé par beaucoup de souffrances. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, la foi en Christ, je disais, nous enlève tout reproche que Dieu peut nous faire. Parce que quand on croit en lui, cela nous est imputé à justice. Nous sommes justes devant Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Prenons un exemple dans l'Ancien Testament, un exemple bien connu, celui de David. 1 roi 15. L'Éternel avait un très bon témoignage de David. Un roi 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, il régna sur Juda. Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, Dieu est fidèle à ses promesses. L'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, le roi Juda, pas de Samarie, j'ai pas Jéroboam. Jéroboam était en Samarie. Donc, mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Ah, écoutez ceci. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Dites amen à ça. Virgule, excepté. Il y a un excepté. Excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Là, j'ai un reproche à faire à David là. Mais beaucoup plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous parler de David dans Hébreux 11. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak. Ça, c'est dans les Juges, vous allez dans les Juges, vous lirez l'histoire de Barak. Juges 4, je crois. De Samson, de Jephté. Samson, on le connaît aussi. On sait ce qu'il a fait. Jephté aussi. Il va sacrifier sa fille, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, et ainsi de suite. Verset 38, verset 37, ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent, tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Vous n'avez plus aucune trace d'Uri le Héthien. De l'affaire d'Uri le Héthien, le excepté est parti. Et pas seulement David, tous les héros de la foi que vous voyez là, toutes leurs fautes, qui ont été vus dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez ici, vous ne voyez pas. Lorsque vous lisez dans Hébreux 11, vous ne voyez rien à leur reprocher. Ils sont parfaits devant Dieu. Et il nous est dit que par la foi, Rahab, la prostituée, verset 31, là, ce mot-là, la prostituée, eh bien, la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Par la foi. C'est que la foi fait. La foi fait triompher. La foi vous enlève tout ce qui peut vous être reproché. Vous voulez être irréprochable? Que Dieu vous augmente la foi. Que Dieu affermisse votre foi. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Maintenant, être juste. Même chose qu'être irréprochable. Être juste, savez-vous, c'est une caractéristique du Messie. C'est le juste, n'est-ce pas? Vous avez crucifié le juste. Jésus disait aux Juifs, « Qui me convaincra de péché ?» Et nous voyons que Paul dit la même chose dans Romains 8, hein, qui convaincra les élus de Dieu, n'est-ce pas, de péché. Irréprochable, c'est que vous êtes quelque part un type de Christ. David en était un. Ça veut, donc c'est une caractéristique du Messie, du Christ, qui disait « Qui me convaincra de péché ?» Même ses ennemis ont cherché de quoi lui reprocher. Ils n'ont rien trouvé. Judas, qui l'a livré, il n'avait aucune raison de le livrer. Jésus ne lui a rien fait de mal. Ou il n'a rien fait devant Judas qui aurait montré qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Non. Judas l'a livré, c'était plus par amour de l'argent. Mais Jésus n'ayant rien fait, lorsqu'il s'en est rendu compte, après l'avoir livré, il va se lamenter, il va dire « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Irréprochable, c'est ce que Dieu exigeait de l'agneau de la Pâque. L'agneau de la Pâque, Exode 12, devait être sans défaut. Et l'agneau de la Pâque, il était pris du troupeau le 10 du mois et on l'immolait le 14 du mois. 4 jours pour l'examiner. Vous pouvez chercher la petite bête. Ou vous pouvez chercher le défaut. Ici, là, il a le sabot un peu... Non. Il a le museau un peu... Pendant 4 jours, vous pouviez venir avec votre loupe et l'examiner. Si vous trouviez un défaut, il ne pouvait pas être offert. Irréprochable, cet agneau. La femme de Pilate envoie un message à Pilate. Dit à Pilate, écoute, on te pousse à faire une chose, mais qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Matthieu 27, verset 19, vous pouvez le noter. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Pilate l'a examiné. Pilate l'a regardé sous toutes les coutures. Il lui a posé des questions. Il a écouté ses réponses. Parfois même, il a subi le silence du Seigneur. Pilate a essayé de le prendre en défaut. Ça n'a pas marché. Il va finir par sortir et dire aux Juifs, « Je suis innocent du sang de ce juste. Je ne trouve rien. » Dans Matthieu 27, 24, il le dit. Il dit, dans Jean 18, 38, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Je l'ai jugé, j'ai regardé, je ne vois rien. Deux bandits sont crucifiés à ses côtés. Il y en a un qui, lui, semble trouver enfin un défaut. Et tu as dit que tu es fils de Dieu. Sauve-nous. L'autre lui dit, mais ça ne va pas, non? Toi et moi, ce que nous subissons, c'est justice. Notre casier à nous deux, ils sont pleins, nos casiers, ils sont pleins. Les crimes qu'on nous reproche, c'est vrai. Amen. Toi et moi, nous méritons d'être ici. Jésus les écoute, ils sont en train de s'échanger. Ne crains-tu pas Dieu? Et puis, Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui dit, ton casier judiciaire est effacé. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oui, la foi en Christ. Oh, gloire à Dieu. Le centenier romain, lui, il était en face. Marc 15. On ne va pas parler du juste aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, sinon ça va être trop. Mais vous pourrez comprendre vous-même en lisant. Quand on vous parle du juste, c'est quoi un juste? Quand Dieu dit qu'il est juste, vous ne pouvez pas l'accuser, le juste, parce que c'est Dieu qui l'a justifié. Dans Marc 15, verset 37, « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, en tout cas, de mémoire, je crois, il n'a jamais vu quelqu'un expirer comme ça. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, amen, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Il n'a pas menti. C'est tout à fait vrai. Pierre nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 1er. Verset 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, amen, et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Autrement dit, si l'on vous demande, si l'on nous demande d'être irréprochable, cela signifie d'être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie. Cela signifie que l'Église de Jésus-Christ est une assemblée, la Bible nous dit, c'est une église des justes que Dieu a justifiés. Et justement, ceux que Dieu a justifiés, ce sont ceux-là qui vont parvenir à la perfection. Hébreux 12, verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes, parvenus à la perfection. » Et c'est une église irréprochable, comme dit Paul dans Éphésiens 5, irréprochable, sans tache, ni rien, ni rien de semblable. Vous savez, pour que ça soit une église irréprochable, donc juste, que Dieu a justifiée, Il faut qu'à cette église, le Saint-Esprit lui-même ait prêché à cette église. Parce que le Saint-Esprit ne prêche que la parole de Dieu. Amen. Une parole irréprochable. Il ne peut pas y avoir d'ajoute ni de censure. Ça va? Il faut que la parole soit irréprochable, qu'il n'y ait rien à reprocher à la doctrine qui est apportée. Si on vous reproche d'une certaine doctrine qui n'est pas biblique, efforcez-vous que ça ne soit pas vrai, que ça soit un mensonge. Mais si c'est vrai, vous êtes coupable. Parce qu'une parole altérée ne va pas donner des gens parfaits. Ça va donner des gens bizarres. Je parle souvent des témoins de Jéhovah. J'en ai dans la famille des témoins de Jéhovah. Vous savez, ils viennent, ils récitent les versets, mais leur vie ne change pas. Toujours remplie de haine, toujours pleine de rivalité, toujours plein de problèmes, incapables de vivre sans problème. Parce que la parole qu'on donne aux témoins de Jéhovah, ça ne change pas les gens. Mais si on vous apporte, on ne va pas avoir la prétention de dire que la parole qu'on vous donne ici, 94 rue de Firla, non, pas ça. Que le Saint-Esprit vous apporte, en quelque lieu que ce soit, cette parole-là, elle doit avoir de l'effet. À moins qu'elle ne vous soit pas destinée. Si vous êtes un colérique, lorsque le Saint-Esprit mettra le doigt sur la colère, vous allez vous sentir concerné. Si vous êtes médisant, le Saint-Esprit va vous faire sentir concerné. Et vous allez changer. Vous qui étiez médisant avant, le Saint-Esprit vous a démasqué. Eh bien, vous vous sentez condamné. Si vous vous sentez condamné, c'est que vous n'êtes pas... il y a un problème. En Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Alors, Paul dit à Tite ceci, pour terminer. Allez, on va commencer avec mes jeunes gens. Ils m'ont fixé rendez-vous demain. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Amen. Ne soyez pas extrémistes. À être modérés. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Que Dieu nous vienne en aide. En donnant un enseignement pur, c'est une responsabilité. Digne, une parole saine, une parole irréprochable. Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Devant le péché, la parole ne peut pas rester muette, la parole de Dieu doit tonner. Lorsqu'il y a un problème, la parole de Dieu doit dénoncer. Et on doit, Paul dit à Timothée, en toute occasion, exhorte, censure, fais cela. Qu'on ne vienne pas dire, oh, tu es trop jeune, toi, tu as quel âge, tu viens pas. Non, que cela ne soit pas un problème. Ce qui est important, que la parole qui sort de ta bouche soit la parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cela soit celle-là qui soit enseignée. Et c'est notre prière, on en 4 rue de Firlan. Notre prière n'est pas que Frère François nous parle, notre prière est que le Saint-Esprit nous parle. C'est notre prière, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et ça, nous serons alors une assemblée irréprochable. Oh, les hommes nous reprochons beaucoup de choses. Ils ne croient pas au tonnerre, ils ne croient pas ceci ou cela, ils nous reprocheront ces choses-là. Mais tant que vous êtes conforme avec la parole, restez tranquille, Dieu est fidèle. Prions le Seigneur. Oh, Père Céleste, nous te remercions ce soir pour nous avoir conviés à cet endroit encore. Nous avons pu ouvrir ce livre dont tu as toi-même établi les livres qui devraient être pris dans le canon des Écritures. Car il y a eu beaucoup de livres dont il est question, mais ceux-ci sont particuliers pour notre salut. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voulons croire en toutes choses et voir le Seigneur Jésus-Christ, car il est question de lui dans tous les livres. Aussi, nous te demandons de nous assister, de nous parler, de nous exhorter, de nous manifester toutes ces choses, de nous expliquer comme tu le faisais avec les disciples, comme tu le faisais dans la maison de Lazare. Marthe savait qu'il y aurait une résurrection dans les derniers jours, parce que tu leur as enseigné cela. Ce sont des choses dont beaucoup ne croyaient pas. Mais ceux à qui tu as annoncé toi-même ces choses et ceux à qui tu annonces cela en ce jour sont ceux qui attendent cet enlèvement, qui attendent la résurrection de ceux qui sont en Christ. Paul, qui avait eu une excellente révélation, il désirait être trouvé en lui. C'était cela sa prière. Accorde-le, Père. Accorde-le pour le 94 rue de Firlan. Pas seulement à nous, mais tous ceux par où ta parole est prêchée, où on a la crainte de dire ce que tu n'as pas dit, où on a la crainte de ne pas dire ce que tu as dit. Donne-nous tout simplement, envoie-nous cet esprit de force, de sagesse, qui n'est pas un esprit de timidité, par lequel nous crions Abba Père, pour que ta parole ne soit pas altérée, que ta parole soit apportée par celui-là même qui l'a écrite, le Saint-Esprit, car c'est poussé par lui que des hommes ont écrit de ta part. Parle-nous, transforme-nous, Seigneur. Là où nous avons été déformés, nous avons besoin d'être transformés. Ta parole, elle est créatrice. Ce qui nous manque, tu peux appeler cela à l'existence. Ta parole peut aussi anéantir ce qu'il faut. Comme le sang de Jésus-Christ anéantit le péché. Rendre cela à néant. Accorde-nous cela, Père. Et chaque fois que nous viendrons pour écouter, que nous ayons toujours rendez-vous avec l'Esprit Saint promis. Et qu'il puisse ainsi exercer au milieu de nous. Merci pour ta grâce à cause de nos nombreux péchés. Merci pour la foi que tu nous as donnée, que tu as suscitée en nous. Augmente-la, nous, Père. Et que tu sois honoré par ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.